VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré, Michel Joseph en votre compagnie ce matin. Bienvenue à cette édition du mercredi 29 avril 2015. Au sommaire ce matin...
L'armée nigériane affirme avoir libéré 200 filles et 93 femmes qui étaient enlevées par le groupe Boko Haram.
Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours suite à l'attaque perpétrée par Boko Haram le 25 avril contre un détachement des forces de défense sur l'île de Karamga dans le lac Tchad.
Au Togo, le président fort Niassimbe rempile pour un nouveau mandat. Il a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre.
Manifestation à Baltimore, ici aux États-Unis, Barack Obama condamne les violences, estimant qu'il n'y avait aucune excuse.
Ici aux États-Unis, plaidoyer ce mardi devant la Cour suprême pour ou contre le mariage des homosexuels.
Hors de la Cour, opposants et supporters du mariage homosexuel se sont également fait entendre.
Il a déjà été déterminé que Dieu a dit que c'est entre un homme et une femme. Nous ne pouvons pas être hypocrites en prêchant la démocratie et les droits humains pour le reste du monde et refuser la même chose à nos propres citoyens.
Voilà, un débat qui fait bruit ici. Ne manquez pas la minute éco et les sports. Mais avant, le journal.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 200 filles et 93 femmes mardi. On ne sait pas encore s'il s'agit des écolières enlevées il y a un an. Le porte-parole du ministère de la Défense nigériane, le major général Chris Olukolade, a confié à la VOA que les otages ont été retrouvés dans 3 camps séparés dans le bastion du groupe extrémiste Boko Haram. Il explique que cette région est l'un des derniers refuges restants à Boko Haram. Boko Haram chassé de plusieurs localités depuis le début de l'année.
Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours suite à l'attaque perpétrée par Boko Haram le 25 avril contre un détachement des forces de défense sur l'île de Karamga dans le lac Tchad. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Massaoudou Assoumi, a donné hier le bilan de cette attaque.
Suite à l'attaque menée le 25 avril 2015 par des éléments du groupe terroriste Boko Haram contre les positions tenues par les forces de défense et de sécurité sur l'île de Karamga. Le bilan provisoire est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés, 32 portés disparus. Côté ennemi, 156 terroristes tués. 28 habitants de l'île ont été également assassinés par les terroristes. Le gouvernement et le peuple nigérien sont particulièrement horrifiés par cette ignominie. Des opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont en cours dans le secteur pour retrouver les éléments des FDS portés disparus, rechercher et mettre hors d'état de nuire les auteurs de cet acte ignoble dont la cruauté est sans égale.
Voilà le ministre nigérien de l'Intérieur, Massaoudou Assoumi, signalant cette autre attaque lundi soir de Boko Haram contre le village nigérien de Bandi, à 47 km à l'est de Diffa. Bilan, 1 mort et 3 blessés. Les assaillants ont pillé des commerces pour subtiliser des vivres avant de s'évanouir dans la nature.
Plus de 150 Maliens ont péri dans les récents naufrages de migrants en Méditerranée, dont celui d'un chalutier le 19 avril au large de la Libye qui a fait plus de 700 morts. Claire Morin-Gibourg.
Selon le communiqué du ministère des Maliens de l'Extérieur, 156 Maliens ont été identifiés parmi les migrants noyés dans la Méditerranée. La plupart des victimes sont originaires de la région de Kaï, frontalière avec le Sénégal. Bamako a mis en place une cellule de crise en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Office des migrations internationales. Les proches sont priés de se rapprocher des autorités maliennes pour transmettre les filiations des personnes qui pourraient être concernées. 9 jours après cette tragédie, dans laquelle ont également péri des dizaines de Sénégalais, le gouvernement du Sénégal a mis en place une cellule de crise dotée d'un numéro vert pour informer les proches des disparus. Profitant du chaos en Libye, des migrants cherchent à rejoindre clandestinement l'Europe, en particulier l'Italie. Leur traversée est souvent périlleuse, à bord de navires vétustes et surchargés. Ainsi, des milliers de personnes ont été englouties par l'océan.
Voilà, au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Selon la commission électorale togolaise, l'abstention s'élève à 40% contre 35% à la précédente présidentielle de 2010. Sans surprise, M. Fabre est arrivé en tête à Lomé, la capitale, historiquement acquise à l'opposition.
Des dizaines de milliers de Gabonais ont accueilli hier à Libreville le cercueil d'André Mbaobam, dit Amo, grande figure de l'opposition, décédé le 12 avril au Cameroun. Les précisions de Lionel Gaïma.
Des milliers de personnes, dont beaucoup étaient en larmes, ont accompagné le cercueil de l'opposant dans un immense cortège allant de l'aéroport jusqu'au stade du quartier populaire de Zeng à Yong à Libreville. Ancien puissant ministre de l'Intérieur, André Mbaobam, était passé dans l'opposition à la mort d'Omar Bongo, resté 41 ans au pouvoir. Candidat à la présidentielle de 2009, il avait contesté la victoire du fils, Ali Bongo Ondimba, et s'était proclamé vainqueur du scrutin. Il était ensuite tombé malade, ses partisans accusent le régime de l'avoir empoisonné. L'annonce de son décès a été suivie de violentes manifestations au cours desquelles l'ambassade du Bénin à Libreville a été incendiée. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui au siège de son parti, l'Union nationale, puis le corps sera transféré à Oyem, son fief, dans le nord du pays. Sa dépouille sera acheminée vendredi vers sa ville natale de Medouneux pour des obsèques dans l'intimité familiale.
La force onusienne en Centrafrique devrait recevoir rapidement des drones et des hélicoptères, a annoncé Hervé Latsou, chargé des opérations onusiennes de maintien de la paix au terme d'une visite de 4 jours dans le pays. Félix Yepassis Zembrou.
Les casques bleus seront dotés de drones pour la surveillance, a déclaré Hervé Latsou lors d'une cérémonie à Bangui. La MINUSCA compte actuellement 8500 soldats et 1484 policiers. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'une année le mandat de la MINUSCA et porté le nombre de casques bleus à 10 750 soldats et 2080 policiers d'ici le mois d'août. La présence de 3 forces internationales, françaises, européennes et onusiennes, a permis de stabiliser la situation sans réussir à pacifier l'ensemble du territoire. Le Forum national de réconciliation doit se réunir à Bangui à partir de lundi. Il doit rassembler plus de 600 représentants de tout le pays pour trouver des solutions durables à la crise.
En Côte d'Ivoire, des enseignants affirment être victimes d'agressions alors que nombre d'entre eux ont cessé de travailler depuis lundi dans les écoles publiques pour protester contre des ponctions salariales. Selon les syndicats cités par l'AFP, des groupes armés de machettes et de gourdins hostiles à l'arrêt des cours ont blessé au moins 6 enseignants lundi et mardi dans plusieurs villes du pays. Les enseignants du public ont cessé le travail lundi après avoir constaté des ponctions excessives sur leur bulletin de salaire d'avril liées à 3 jours de grève début mars, selon un syndicaliste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama a condamné les violences à Baltimore, estimant qu'il n'y avait aucune excuse. Il a aussi convenu que les États-Unis étaient confrontés à une crise latente avec la police, notamment dans ses relations avec les Noirs. Jean-Roger Bion.
Nous avons vu trop d'exemples d'interactions entre la police et des gens, surtout des Afro-Américains, souvent pauvres, qui soulèvent des questions troublantes, a déclaré hier le président Obama dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. La toute nouvelle ministre de la Justice, Loretta Lynch, qui a prêté serment lundi, a condamné ce qu'elle a qualifié de violence insensée. Larry Hogan, gouverneur du Maryland, a décrété l'état d'urgence et Stephanie Rowling Blake, maire de Baltimore, a annoncé un couvre-feu nocturne d'une semaine. Lundi, de nombreux jeunes, dont des lycéens, s'en sont pris aux forces de police, lançant des briques, cailloux ou encore des bouteilles. Ils ont pillé des commerces et incendié des voitures. C'était peu après l'inhumation de Freddie Gray, ce jeune noir de 25 ans est mort après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon de police. Une enquête a été ouverte et la police promet plus d'informations pour le vendredi 1er mai sur la mort de Freddy Gray.
Voilà, selon les médias indonésiens, 7 étrangers et un Indonésien reconnu coupable de trafic de drogue ont été exécutés ce matin malgré les protestations des organisations de défense des droits de l'homme et des dirigeants du monde. Ces médias rapportent qu'ils ont été mis à mort par un peloton d'exécution tôt ce mercredi matin.
Et tout de suite, la page économique avec Nathalie Barge.
Une conférence internationale de 4 jours sur le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage en Afrique a débuté lundi à Brazzaville, rapporte l'agence PANA. L'Union africaine a organisé cette conférence en partenariat avec le gouvernement congolais et le programme des Nations Unies pour l'environnement pour mettre sur pied une stratégie et un plan d'action qui feront l'objet d'un examen lors du prochain sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Le Burkina Faso, dont le sol est riche en or, investit dans le secteur minier aurifère depuis 2009. Une délégation gouvernementale se rendra prochainement à Montréal pour un grand forum annuel qui regroupe les professionnels du secteur minier, a dit à la Voix de l'Amérique Félix Fanon, directeur des services aux entreprises à la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina Faso.
Aujourd'hui, les entreprises minières qui sont installées au Burkina Faso sont essentiellement des entreprises canadiennes. Je pense notamment à IAMGOLD, essentiellement importent leurs produits soit du Canada, soit d'autres pays européens. L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités donc, de nos entreprises afin qu'elles soient à mesure de fournir quelques biens ou des services donc, à des entreprises minières installées au Burkina Faso.
Le Cameroun a procédé mardi à l'inauguration de la centrale au gaz naturel de Bassa Logbaba d'une capacité de 50 MW pour un coût de 20 milliards de francs CFA d'investissement, rapporte l'agence de presse africaine. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer l'offre énergétique du pays et permettra de réduire les coupures d'électricité à Douala et ses environs. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atangana Kuna, qui présidait la cérémonie, a déclaré que cette nouvelle centrale était l'aboutissement d'un travail collectif dont le but est d'améliorer l'offre énergétique du pays.
Vous écoutez Le Monde, aujourd'hui c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
En football, Luis Fernandez débarque en Guinée.
L'ancien international français et ex-entraîneur du PSG, Luis Fernandez, âgé de 55 ans, a annoncé mardi qu'il devenait le sélectionneur du Sélection nationale de Guinée. Ce fut long à se dessiner, mais j'ai décidé de bien prendre mon temps avant de m'engager, a-t-il expliqué sur Bein Sports, dont il est consultant. Nous avons pris le temps de discuter du staff. Je serai accompagné d'Amara Simba et Kaba Diawara. Mon objectif est la CAN 2017. En fonction de mes résultats, on verra comment se passera la suite de l'aventure. En tant que joueur, Fernandez a notamment gagné l'Euro 1984 avec la France. En tant qu'entraîneur du PSG, il avait notamment gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe, ex-C2, aujourd'hui disparue, en 1996. Il n'a plus entraîné depuis la fin de son contrat au poste de sélectionneur d'Israël en 2011.
Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal et Madagascar fixés sur leur sort.
Le tirage au sort a été effectué ce mardi pour ce tournoi qui aura lieu au Portugal. Dans le groupe D, Madagascar, champion d'Afrique, jouera contre la Russie, le Paraguay et Tahiti. Dans le groupe A, le Sénégal se mesurera au pays organisateur, le Portugal, mais aussi au Japon et à l'Argentine. Dans le groupe B, Brésil, Mexique, Espagne, Iran. Groupe C, Suisse, Oman, Italie, Costa Rica.
À Madrid, la perle norvégienne va peut-être fouler la pelouse de Santiago Bernabéu pour la première fois.
L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a convoqué pour la première fois le jeune prodige norvégien Martin Odegaard dans le groupe contre Almeria ce mercredi. Le joueur de 16 ans est présenté comme la star de demain pour le football mondial. Et pour terminer, Bagassi, la suite des playoffs du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Oui, les Houston Rockets se sont qualifiés hier soir pour le prochain tour des playoffs en prenant facilement le dessus sur les Dallas Mavericks. Les Rockets ont remporté la 4e victoire décisive lors du match numéro 5 disputé dans leur salle sur le score sans appel de 103 à 94. James Harden, candidat déclaré au titre de MVP, meilleur joueur de la saison, a inscrit 28 points et finit une nouvelle fois meilleur marqueur de la rencontre. Et San Antonio est actuellement aux prises avec Los Angeles, les Los Angeles Clippers.
VOA Afrique.
Votre compagnie pour cette édition du mercredi 29 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. En RDC, les autorités du Nord Kivu tirent la sonnette d'alarme sur une nouvelle rébellion qui est en formation à Kampala, en Ouganda. Le gouverneur de cette province a affirmé lors d'une conférence de presse que la nouvelle rébellion dénommée Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo est constituée des ex-CNDD et du M23. Eddy Issango a justement joint à Kampala le président du M23, Bertrand Bisimwa.
Nous n'avons pas d'intérêt pour le moment et au stade actuel de mener une quelconque rébellion, même si nous savons que cela est de notre droit, d'autant plus que les problèmes de notre pays, les problèmes du Kivu, nous devons à un certain moment les prendre nous-mêmes en charge et les résoudre, étant donné que le gouvernement congolais est incapable de les résoudre. Mais au stade actuel, je peux vous rassurer que nous ne sommes dans aucune entreprise rebelle.
Toutes les raisons que vous évoquez par rapport aux revendications que vous posez ne justifieraient pas de votre part justement la mise sur pied d'une nouvelle rébellion, parce qu'on sait, au Congo c'est comme ça, les rébellions naissent parce qu'il y a des problèmes qui n'ont jamais été résolus.
Ce qui se passe au Congo actuellement, le M23 n'y est pour rien. Le M23 se trouve en Ouganda, cantonné en Ouganda, cantonné au Rwanda, désarmé même. Le M23 n'a aucun militaire sur le territoire congolais. Le M23 n'entreprend aucune entreprise rebelle pour l'instant dans notre pays. Si le gouvernement congolais ne veut pas résoudre les problèmes des sociétés, si le gouvernement congolais ne veut pas répondre positivement aux engagements qu'il a pris, aux obligations qui lui incombent, qu'il a prises à travers les déclarations de Nairobi, à travers l'accord cadre, parce que ce sont des engagements qui concernent la résolution des problèmes des sociétés.
Les élections approchent, mais vous êtes encore à l'extérieur du pays. Est-ce que ça ne serait pas là une raison pour vous de forcer la main au gouvernement, d'être impliqué dans ces processus, parce qu'on enregistre déjà des candidats pour les élections régionales, provinciales?
Les élections n'ont jamais été une finalité pour le M23. La finalité pour le M23, c'est la résolution des problèmes des sociétés qui se posent dans le pays. Nous ne nous sommes pas battus pour participer aux élections.
Voilà, c'était donc Bertrand Bisimwa qui était en ligne avec Eddy Issango.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Voilà, au Togo, on le sait désormais, le président sortant Faure Gnassingbé remporte l'élection présidentielle. Il devance donc le principal parti de l'opposition, le principal candidat de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, avant ses résultats donc publiés par la commission électorale hier. Le président ghanéen John Dramani Mahama et ivoirien Alassane Ouattara étaient sur place pour des services de bons offices entre les parties togolaises en course. Eddy Issango a demandé donc au coordonnateur général de la mission d'observation nationale des élections et directeur exécutif de la concertation de la société civile togolaise pour Paul Amegakpo Komedi pour savoir si les résultats de ces élections seront acceptés par toutes les parties togolaises.
Il n'y a pas de tension, il y a plutôt un calme. Et donc la tension n'est pas perceptible. Les différents acteurs politiques, les candidats notamment à l'élection, sont associés à ce processus de centralisation des résultats. Et donc on espère que ce qui sera sorti des conclusions ou ce qui sera proclamé par la Commission nationale indépendante va recueillir l'assentiment de tous les acteurs politiques. Sinon, au niveau de la population, nous avons nos représentants au niveau de chaque région du pays et les informations qui nous sont remontées montrent que les populations gardent leur calme et tout le monde espère seulement la proclamation des résultats.
La Commission nationale électorale indépendante a publié 26% des résultats. Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà parler des tendances?
Nous disposons des moniteurs auprès des 42 CELI. Et à l'heure où je vous parle, nous avons les données telles que centralisées au niveau des 42 CELI. Et donc nous disposons des tendances, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure, en tant que société civile, de pouvoir les avancer à l'heure actuelle. Nous attendons donc tout simplement la proclamation des résultats définitifs pour exprimer notre position par rapport à ces résultats.
On nous parle des deux présidents qui sont venus au Togo dans le but d'essayer d'apaiser les esprits quand les résultats seront publiés.
Je crois que c'est une mission de bons offices. Seulement, dans le contexte actuel et tel que nous avons pu observer les choses, il est quand même inutile que ces missions de bons offices arrivent si les acteurs politiques se montraient assez responsables. Parce que les représentants des différents candidats étaient suffisamment présents dans les bureaux de vote. Le taux pour unir était de 93% de présence effective de leurs délégués dans les bureaux de vote. Le cap 2015 à 86%. Et donc, à notre avis, ces classes politiques-là sont en mesure eux-mêmes d'attester de la crédibilité des résultats.
Voilà, c'était Paul Amegakpo Comedy. Il a été joint par Eddie Isango.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au Burundi. Impossible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza met le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission à 19h TU sur VOA Afrique.
Voilà, après les attaques terroristes du 2 avril qui ont tué 148 étudiants à l'université de Garissa au Kenya, des voix s'élèvent partout pour dénoncer le terrorisme en Afrique. Ici aux États-Unis, des Africains de la diaspora demandent aux leaders religieux musulmans de rompre le silence et de dire la vérité aux terroristes qui utilisent le nom de l'islam pour tuer des innocents. George Léonard Sagno.
Oui, le débat fait rage au sein de la communauté africaine et les avis semblent bien partagés. Yves Bambara, étudiant burkinabé en Sciences Po à l'université NYU de New York.
Je pense que le mal du terrorisme a pour trois causes principales. La première cause, c'est le problème de développement. La deuxième cause, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait que les leaders religieux, les musulmans, les imams, commencent à donner, à écouter même les discours religieux dans les différentes mosquées, dans les différentes rencontres. Parce qu'il est inadmissible qu'on dise que ces individus-là ne sont pas des musulmans, pendant que partout, ils se réclament des musulmans, ils ont le Coran en main, ils sont en train de salir le nom de la religion. Une bonne religion, une religion de paix et d'amour. Finalement, la troisième responsabilité, comme je le disais, ce sont nos dirigeants, nos chefs d'État, qui ne font pas de leadership de la gouvernance démocratique, qui ne viennent que s'approprier des biens du pays pour leur plaire.
Pour Aboubakar Diaby, un Guinéen vivant dans l'état de New Jersey, il ne faut pas jeter l'anathème sur tous les musulmans, même s'il reconnaît qu'il y a des problèmes aujourd'hui.
Vraiment, le terme est important, c'est intéressant parce que j'ai écouté celui qui vient d'intervenir, vraiment, il a bien parlé. Bon, aujourd'hui, les extrémistes islamistes, ils sont en train de salir le nom de l'islam et pourtant, ils se réclament musulmans. Mais ce n'est pas l'islam qui l'autorise. Parce que oui. Si tu te réclames musulman, bon alors il faut suivre les principes, ce que l'islam demande. Mais si toi tu fais ta volonté et tu agis, ce que l'islam ne demande pas, alors moi je dirais que tu n'es pas musulman.
Pour sa part, David Touré, activiste politique guinéen, replace le terrorisme dans son contexte et dénonce les pétrodollars qui le financent.
En ce qui concerne le terrorisme, franchement, c'est un sujet qui est très compliqué, vu que nous n'avons pas assez de moyens, comme les Européens, pour lutter arme à arme contre ces terroristes, nous savons, hein, d'où ils tirent leur argent, c'est des raquettages, c'est aussi des grands magnats, des multinationales qui les financent dans certains coins. Sinon, hein, comment se fait-il qu'au Nigeria, qu'un Boko Haram face à un régime très puissant, face à la superpuissance africaine, qui n'arrive pas jusqu'à présent à maîtriser ce Boko Haram.
De son côté, Landry Kio, leader de la société civile ivoirienne, appelle les gouvernements africains à promouvoir l'éducation, l'emploi des jeunes, des facteurs qui pourraient, selon lui, décourager le recrutement des jeunes par les groupes terroristes. Comme on le voit, le terrorisme est un sujet complexe et son éradication demande des efforts de la part des gouvernements, mais aussi l'implication de tous les citoyens.
Voilà, voici une question qui fait débat ici aux États-Unis. Les opposants et les supporters du mariage homosexuel ont plaidé ce mardi devant la Cour suprême des États-Unis ici à Washington. Celle-ci doit décider si le mariage homosexuel est constitutionnel ou non. Le mariage gay est actuellement autorisé dans la plupart des deux tiers des 50 États américains ainsi que dans la capitale Washington, D.C. L'affaire passionne les militants des deux camps qui se sont mobilisés en grand nombre ce mardi devant la Haute Cour. Le reportage de Jim Malone est présenté ici par vous, Michel Joseph.
C'était un choc de culture devant la Cour suprême. Partisans et adversaires du mariage homosexuel n'ont pas ménagé leurs efforts pour se faire entendre au moment où la Cour suprême doit décider si les homosexuels américains ont le droit constitutionnel de se marier. Pour Tom et Darren, mariés depuis 2008, la question est très personnelle. La vérité finit par triompher, dit-il. Les gens voient qu'il s'agit bien de relations amoureuses. Une partie porte sur le sexe, oui, mais 99% concernent toutes les autres activités quotidiennes des Américains, factures, enfants, etc. Tom Cicero est lui aussi supporter du mariage des homosexuels. Ceci va valoriser notre mariage, dit-il, parce qu'il ne s'agit pas de nous seulement, il s'agit de tout le monde. Pour J.P. Singh et Charles Johnson, un couple marié, il s'agit également d'envoyer un signal fort au reste du monde. Nous ne pouvons pas être hypocrites en prêchant la démocratie et les droits humains pour le reste du monde et refuser la même chose à nos propres citoyens, dit J.P. Singh. Les opposants au mariage gay n'étaient pas en reste, à l'image de ce prédicateur du Texas, Caleb Hickam. Il a déjà été déterminé que Dieu a dit que c'est entre un homme et une femme, et que si nous allons contre Dieu, que Dieu va juger notre pays, dit-il. Ce mardi, les opposants au mariage homosexuel semblaient en infériorité numérique devant la Cour suprême, ce qui ne constituait nullement un problème pour Nino Burnett. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Je suis prêt à mourir pour cela. Je ne vais pas faire de compromis, dit-il. Les sondages d'opinion montrent que le soutien pour le mariage gay a augmenté à travers le pays ces dernières années, bien que beaucoup de conservateurs sociaux demeurent encore de farouches opposants. La décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité du mariage gay est attendue en fin juin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est tout donc pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Michel Joseph a assuré la production. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au micro, c'était Bagassi Courage. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
meilleur de l'info sur